Evendo, c'est la fondatrice et directrice de Agon, une start-up fondée en novembre 2020 qui utilise la réalité virtuelle afin d'améliorer la performance sportive au travers de l'aspect cognitif. Pour l'avoir testé en fin d'entretien, c'est assez technique. Et pour rien de vous cacher, j'ai une grosse marge de progression. Je tiens d'ailleurs à remercier MyEvendos de m'avoir laissé l'opportunité d'expérimenter leurs produits et leurs services. La création et l'origine de Agon, le fonctionnement des entraînements cognitifs et les ambitions de l'entreprise, tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour MyEvendos, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Peux-tu te présenter, s'il te plaît?
Donc, bonjour Kylian, je suis Maïvendo, j'ai 25 ans, je suis originaire de La Rochelle. Et il y a maintenant un an, j'ai créé Agon, donc une start-up qui lie sport et nouvelles technologies.
D'accord, et quels sont les sports que tu pratiques aujourd'hui ou que tu as pratiqué durant ton enfance?
Alors aujourd'hui, je pratique le rugby au Stade Rochelet depuis maintenant plusieurs années, mais avant et pendant 15 ans, j'ai pratiqué le basket.
Et comment cette passion du sport est-elle née? Est-ce que ça vient de la famille?
Alors oui, mon papa a joué au Stade Rochelet, donc au rugby. Et après, donc, mon papa ne souhaitait pas que je fasse du rugby avec des garçons parce que j'étais plutôt petite. C'est pour ça que je suis partie vers le basket, notamment avec des copines.
Et quel parcours universitaire est-ce que tu as suivi pour mener justement Agon League ou Agon, je ne sais pas si
tu Alors c'est Agon.
D'accord, Agon.
Et donc par rapport à mon parcours, moi j'ai fait une licence à l'IEE de La Rochelle en gestion des entreprises. Et après j'ai fait un master management du sport à Poitiers. Et c'est vraiment sur l'écriture de mon mémoire où est né Agon.
Et justement, est-ce que tu peux nous en parler de Agon?
Yes. Alors Agon, c'est une start-up, donc c'est sur la mise en place de solutions numériques pour le développement et le suivi de la performance sportive axée sur les capacités cognitives. Donc, les capacités cognitives, c'est les fonctions de notre cerveau qui nous permettent de communiquer, d'être en contact avec notre environnement ou alors simplement d'accumuler des connaissances. Et donc du coup, on utilise la réalité virtuelle pour entraîner ces capacités. Donc tout ce qui va être traitement de l'information, prise de décision ou encore concentration.
D'accord, donc on va parler de tout ça tout au long de l'épisode. Mais à quel besoin est-ce que Agon répond
Alors, c'est répondre à des besoins comme tout ce qui est prise de décision sous fatigue, stress, manque de lucidité, où des sportifs vont soit prendre des mauvaises décisions qui peuvent parfois les mettre en danger, ou alors une décision qui va être néfaste pour l'équipe, soit une mauvaise passe ou un mauvais plaquage qui pourrait, au rugby... Enfin, qui va changer le cours du jeu.
Et tu as dit que l'idée venait de ton mémoire?
Oui.
C'est-à-dire, sur quoi est-ce que tu as travaillé exactement?
Alors, j'ai travaillé donc, sur mon mémoire, j'ai travaillé sur la professionnalisation du rugby en France, l'évolution physique du sportif, les conséquences associées, notamment le cas des commotions cérébrales. Donc, j'ai fait, lors de ma soutenance, le parallèle avec ce qui s'était passé quelques années auparavant aux États-Unis, en NFL, avec des joueurs qui devenaient fous suite à des commotions cérébrales à répétition, et où la ligue et les clubs ont dû trouver des solutions pour aider les joueurs à sortir de ce cercle vicieux. Et on a notamment laissé un peu l'entraînement physique de côté et allé trouver des solutions pour entraîner des capacités qu'on a, mais qu'on n'a pas forcément pris le temps d'entraîner. Donc, tout ce qui touchait au niveau cérébral. Et donc du coup, ces compétences permettent, un, d'aider à la performance, puisqu'on vient, entraîner d'autres compétences, mais aussi, en ouvrant ce spectre de la performance, on vient quelque part sécuriser le sportif, puisqu'on vient l'aider sur des phases où, quand ses capacités physiques sont fatiguées, les capacités cognitives peuvent prendre le relais.
Et toi, cette importance des capacités cognitives, est-ce que tu l'as constatée par toi-même dans ta pratique ou...
Alors, je pense que... constater, je sais pas trop. Après, c'est vrai que sur des moments de fin de match, on voit que souvent des situations de fin de match qui sont plutôt serrées, et c'est pas forcément sur le physique que ça va jouer, mais ça va être sur la lucidité des joueurs, sur comment est-ce que je vais réagir sur des situations de stress, comment au basket faut marquer le lancer franc qui va faire que je vais égaliser ou je vais passer devant. Voilà, toutes ces choses-là, il faut savoir autant les gérer que gérer le fond et ses capacités physiques.
Tu nous as dit que les entraînements se déroulaient avec un casque de réalité virtuelle. Est-ce que tu peux donner plus de précisions sur comment ça se déroule?
Yes. Alors, on utilise un casque de réalité virtuelle parce que la réalité virtuelle, ça permet donc un environnement immersif. Donc, les distractions extérieures sont limitées. Et du coup, pour nous, le sportif est plus réceptif aux messages qu'on souhaite lui faire passer. Puis, la 3D, que ce soit n'importe quel sport. Ce n'est pas uniquement devant nous qu'on doit regarder. On a tout un environnement à prendre autour et du coup, la réalité virtuelle le permet. Et donc, on va avoir, donc le sportif est dans différents environnements et il va avoir, donc je prends l'exemple d'un, c'est peut-être tout bête au départ, mais il y a des ronds, des carrés de plusieurs couleurs. Et il y a des consignes. Et en fait, il faut que lui s'adapte aux consignes et qu'il sélectionne les bons éléments qui lui sont demandés. Et nous, on vient après mesurer tout un tas d'informations par rapport à la performance qu'il a fait au sein du casque.
Est-ce que c'est vous qui avez créé ces environnements ?
Oui. Tout ce qui se passe au sein du casque, c'est nous qui l'avons créé et développé. Et après, on travaille avec des laboratoires pour justement valider que tout ce qu'on ait créé ne soit pas uniquement le sportif qui devienne plus fort en réalité virtuelle, mais qui a un réel impact sur ses capacités cognitives.
Comment est-ce que c'est mesuré exactement ?
Alors, par exemple, on travaille, donc il y a des tests neuropsy qui existent, des tests comme Stroop, qui sont des tests standards et qui ont déjà été validés par le monde scientifique. Et en fait, on vient valider que ce qu'on propose en réalité virtuelle, les métriques, les analyses qu'on vient faire, sont bien corrélées avec ce qui existe déjà. En fait, c'est une autre manière d'aller les chercher, mais par contre, ça ne sort pas de n'importe où.
D'accord. Sur votre site internet, j'ai vu qu'il y avait donc les différents types d'entraînement, Zen Master, Motion Master, Beat Master et Tracker Master.
C'est ça.
C'est quoi la différence ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans chacun de ces programmes ?
Alors, dans chacun de ces programmes, du coup, on vient travailler différentes compétences cognitives. Donc, par exemple, sur Beatmaster, selon celui dont je vous parlais tout à l'heure avec les ronds et les carrés, là, on vient chercher tout ce qui est vitesse de traitement de l'information. Comment le joueur réagit dès qu'il a un changement de consigne ? Comment est-ce que il s'adapte sans cesse à l'environnement qu'il a devant lui ? Après, sur Tracker Master, vous connaissez peut-être tout ce qui est neurotracking et ce qui se passe en 2D et qui est beaucoup utilisé dans le monde sportif. Bah là, en fait, on vient le prendre en 3D avec, pour ajouter cette notion d'espace, qu'on n'est pas tous sur la même ligne à un terrain de sport, mais qu'il y a plusieurs rideaux et plusieurs profondeurs. Mais là, pareil, on vient travailler du coup, sur la prise de décision et la vision dans l'espace du joueur. Zen Master, c'est plutôt, là on vient travailler sur tout ce qui est concentration et contrôle de la respiration du joueur. Comment est-ce que, tout ce qui est cohérence cardiaque. Et après Motion Master, celui-là est un peu différent puisque là on est au sein du casque de réalité virtuelle mais on fait appel à des images réelles. C'est-à-dire qu'on filme le joueur à l'entraînement avec une caméra spéciale et ensuite on réintègre ces images au sein du casque. Et là, du coup, le joueur se voit faire le geste qu'il doit faire. Donc, il y a une meilleure...
visualisation.
Une meilleure visualisation. C'est pas ce mot-là, mais il y a une meilleure visualisation du joueur, du geste qu'il souhaite faire. Et sur quoi on travaille, c'est d'intégrer le machine learning à ces images pour aider le joueur avec l'entraîneur à avoir le geste optimal pour une meilleure... bonne performance et une sécurité optimale.
Donc vous entraînez que des sportifs de haut niveau, ça se passe comment ?
Alors aujourd'hui, on était parti sur des sportifs de haut niveau. Le rugby au départ, parce que c'était la problématique de départ et c'était aussi notre réseau. Après, on s'est vite étendu sur d'autres sports collectifs, mais aussi individuels. Notamment, on a un casque qui est parti sur les Jeux Olympiques de Tokyo avec Lucie Anastasiou qui fait du skit, familièrement du ball trap. Et après, mais l'idée vraiment, et je pense l'origine vraiment de l'entreprise, c'est le sport ne s'arrête pas qu'aux sportifs de haut niveau, et c'est de l'étendre au sport amateur, notamment aussi sur cette partie sécurité du joueur et santé, prise en compte de sa santé. Et là, c'est tout le travail qu'on fait aussi avec les labos, avec la volonté d'avoir un outil qui soit labellisé pour après le proposer aux fédérations et qu'il puisse descendre plus facilement sur le sport amateur.
Et là, c'est 4 programmes, donc c'est un programme d'entraînement, il y a un certain ordre à respecter, une certaine fréquence. Comment
Alors, il n'y a pas forcément d'ordre à respecter. L'idée, c'est il passe des séances d'évaluation. Et ensuite, donc, le tableau de bord qu'on en ressort, on va avoir des points faibles, des points forts, selon l'exercice qui vient de passer. Et l'idée, c'est après, selon l'analyse qu'on a faite de ça, plus la discipline qu'il pratique, on va lui proposer un protocole d'entraînement selon les exercices qu'on a.
Est-ce que... Vas-y, continue.
On peut coupler deux exercices ou alors les faire complètement indépendamment.
Et est-ce qu'il y en a qui sont plus adaptés à certains sports ou c'est vraiment lié aux sportifs et à ses capacités?
Alors, je pense, alors, il y en a forcément qui sont adaptés à plus de sports. Par exemple, sur du sport collectif, bah, c'est vrai qu'on est tout le temps sur la prise de décision, on est tout le temps sur... Il y a un ballon, et il y a souvent plusieurs, enfin, il y a plusieurs joueurs autour, donc il y a aussi tout un jeu sans ballon qui est important. Et donc là, tout ce qui est visualisation de mon environnement est très important. Alors que sur du fond, enfin de la course, et ben là, on ne va pas se retrouver du tout dans les mêmes problématiques. Enfin, le joueur, il a certes, enfin le coureur, il va avoir certes d'autres athlètes autour de lui, mais ça ne va pas du tout être les mêmes prises de décision. On va plus travailler sur le fond et sur tout ce qui est contrôle de sa respiration.
Donc ça, vous avez vraiment cherché à adapter au plus pour le sportif.
Ouais. En fait, l'entraînement cognitif et ce qu'on souhaite développer, c'est vraiment similaire à l'entraînement physique. Comme le sportif a dans son emploi du temps des séances d'entraînement physique, que ce soit du fond ou de la musculation, et ben c'est la même chose d'intégrer de l'entraînement cognitif sur ces semaines.
Est-ce que ça pourrait prendre une aussi grosse importance dans le planning que l'entraînement physique et l'entraînement mental, comme on voit
Alors, une aussi grosse importance, pas... Non, enfin, la réponse, ça sera non, parce que c'est pas encore dans les mœurs et autres, mais par contre, faudrait que ça prenne que ça ne soit pas négligé par les athlètes. Et la difficulté, mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que l'humain, on a tous besoin de concret et de palpable quand on fait quelque chose. L'entraînement physique donne accès à ça. C'est-à-dire, quand je m'entraîne en fond, je vais avoir une valeur de référence, ma VMA, mon objectif, c'est d'aller l'augmenter. Enfin, voilà, c'est sur ma préparation physique, pour ma musculation, je vais m'entraîner 6 semaines en développé couché, ben, je vais avoir mes kilos de barre qui augmentent et je vais voir sur mon corps qu'il y a une transformation. L'entraînement cognitif, je m'entraîne 6 semaines. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de valeur de référence sur l'entraînement cognitif. Et on ne va pas prendre une photo du cérébral, du joueur, au départ et après. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est beaucoup sur le ressenti. Et en fait, comment on fait adhérer les joueurs à ce type d'entraînement en leur montrant que c'est aussi important que l'entraînement physique.
Mais est-ce qu'il ne peut pas s'en rendre compte par lui-même, justement, par exemple, à la fin d'un match, une action ou une prise de décision qu'il aurait prise, bah, dire finalement c'était pas la bonne, et au bout des 6 semaines d'entraînement, prendre une décision qui serait la bonne?
Alors, si, enfin, de toute façon, franchement, ça marchera, enfin, ça fonctionne aujourd'hui sur le ressenti. C'est vraiment le joueur qui se dit, voilà, enfin, au début, j'arrivais à traiter trois objets en même temps, aujourd'hui, je suis à 6, donc forcément, bah, j'ai ce sentiment d'avoir progressé. Mais sur le long terme, pour qu'ils adhèrent et que ça soit un entraînement pérenne, il faut avoir du concret. Et du coup, toute la difficulté, elle est là.
Et sur ces sports collectifs, est-ce que vous avez cherché, est-ce que c'est le joueur qui vient vers vous? Est-ce que c'est le staff qui vient vers vous? Est-ce que vous travaillez avec tous les joueurs, un seul joueur?
Alors, voilà, franchement, on a tous les cas possibles que vous venez de citer. On a travaillé, bah, notamment, étant sur La Rochelle, c'est vrai qu'on a travaillé, bah, par exemple, avec le volley, avec le rugby ou alors des sportifs individuels. Il y a eu, au départ, on est allé chercher notre réseau, mais après, c'est du bouche à oreille et des sportifs qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai telle étape, telle échéance, est-ce que je pourrais tester, ça m'intéresse. Et on se rend compte aussi qu'il y a une vraie prise en compte des sportifs de cet entraînement. Parce qu'avant, par exemple, les préparateurs mentaux dans les clubs, il n'y en avait presque pas. Et aujourd'hui, il y a une prise en compte de l'importance de cet entraînement.
Est-ce qu'il y a intérêt justement aussi parce que c'est nouveau et dire, bah, tiens, est-ce que ça peut marcher?
Oui, alors forcément, il y a cette nouveauté, mais on ne veut pas justement que ça soit que nouveau et que ça soit
un gadget
et que ça soit juste le truc du moment. Pas du tout, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte sur le long terme.
Donc ça, tu nous as parlé de Lucie Anastasou, tireuse de ski, qui allait à Tokyo l'été passé. Qu'est-ce qui les a motivés justement à tester et à rester, à prendre l'aventure d'Agon?
Alors, bah, Lucie, elle a commencé, ça a été une des premières à tester. Et donc, elle a vu toutes les évolutions du produit. Et en fait, elle... Enfin, ça se passait bien, et puis elle sentait que voilà, elle avait cette envie de continuer. Et puis après, on avait développé justement ce module plutôt axé sur la concentration, sur l'appréhension de grands événements, et c'est comme ça qu'est arrivée cette possibilité qu'elle parte avec un casque à Tokyo.
Donc, est-ce que vous mettez à disposition le matériel?
Alors aujourd'hui, ça dépend, mais sur des sportifs comme Lucie qui nous ont aidés aussi à co-construire la solution, oui. Mais après, dans le modèle économique de l'entreprise, non, on mettra pas forcément, enfin, on n'aura pas la possibilité aujourd'hui de mettre du matériel à disposition à tous les sportifs. Donc, si on peut, je le ferai.
Donc, est-ce que les clubs doivent avoir, ou les clubs, ou les joueurs, leur casque? Est-ce que les entraînements se font ici dans vos locaux?
Alors, sur La Rochelle, nos entraînements se font sur les locaux, dans nos locaux. Après... on a des clubs qui ont des casques de réalité virtuelle. Nous, on leur met simplement le programme à l'intérieur. Après, par contre, il y a tout un système de formation des coachs parce que c'est des nouveaux outils. C'est aussi des nouvelles données à prendre en compte. Comment je lis les données qui sont issues du casque? On les laisse pas avec un casque et l'application tout seul. Pas du tout. Et après, on a une application aussi mobile qui est à destination des athlètes où eux, ils ont aussi tous leurs résultats individuels et leur suivi de performance.
Donc, c'est aux entraîneurs après des clubs de faire toute la programmation pour améliorer la performance des athlètes. C'est pas vous gérez pas ça.
Alors, nous, on les aide à mettre en place les protocoles et du coup, dans cette analyse de données, dans ce soutien à la lecture des données, on leur apprend à mettre en place les différents protocoles pour les athlètes.
Et donc là, tu dis nous. vous êtes combien dans l'entreprise? Parler un peu de l'entreprise, vous êtes combien? Où vous êtes situé?
Alors, l'entreprise, elle est située à La Rochelle, au nord de La Rochelle. Après, donc, dans l'entreprise, on est trois. Donc, il y a Corentin et Loïs. Donc, Loïs, elle est alternante en école d'ingénieur à La Rochelle. Et Corentin, il est en licence développement cloud à l'Université de La Rochelle. Et après, donc, on a Agone est accompagné par La Rochelle Technopole, qui est l'incubateur des startups innovantes sur le territoire de La Rochelle. On est accompagné par Naos, qui est Nouvelle-Aquitaine Open Source. Donc, qui appartient à la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est aussi des compétences de ces structures qu'on vient chercher, auxquelles on fait appel pour nous aider à développer certains logiciels, parce qu'on n'a pas encore toutes les compétences en interne, parce qu'on a un tout petit peu plus d'un an.
Et justement, dans le développement de Agone, quel avenir est-ce que tu vois dans l'entreprise?
Alors là, pour début 2022, alors déjà, on est sur de la technologie, enfin, nouvelle technologie. Aujourd'hui, on utilise la réalité virtuelle, mais la réalité virtuelle est un moyen par lequel on entraîne les sportifs. L'idée, c'est que demain, il y ait aussi d'autres outils, pour les entraîner. Parce que vraiment, le cœur d'Agone, c'est toute la donnée cognitive qu'on ressort, et c'est ça ce qui est innovant. Et donc, pour début 2022, c'est d'avoir un premier produit qui soit commercialisable. Et ensuite, aussi, ce qui pour moi paraît aussi très important, c'est de continuer toute cette validation scientifique qu'on met en place parce que bah, du coup c'est ce qui crédibilise Agone et qui lui donne de la valeur.
Tout à l'heure, vous avez parlé des fédérations. Est-ce qu'il pourrait y avoir certains partenariats pour mettre en place des programmes spécifiques pour certains sports, des environnements spécifiques?
Ben alors, c'est vrai qu'avec les JO qui arrivent à Paris en 2024, on voit qu'il y a une vraie volonté des fédérations à aller chercher de nouveaux outils pour trouver la petite différence qui sera par rapport à une autre fédération. Et donc, on est contacté par différentes fédérations, effectivement, pour pouvoir... comment répondre aux besoins ou à l'attente qu'a un sportif d'une telle fédération? On pourrait répondre en réalité virtuelle parce qu'ils n'ont pas trouvé de moyens.
C'est-à-dire
par exemple, on avait rencontré des sportifs, enfin des voileux. Comment, enfin la voile, la spécificité de la voile, c'est que je dois prendre des informations qui sont hyper proches sur mon bateau, et en même temps, je dois prendre des informations qui sont hyper loin parce que bah, je dois savoir où est-ce que sont les autres bateaux, quelle est leur trajectoire. Et en fait, du coup, je dois avoir tout le temps un focus et une adaptation bah, sur cette focus proche-loin. Pour pouvoir bah, prendre les bonnes décisions systématiquement. Et on avait pu rencontrer plusieurs voileux, et en fait, ils n'étaient pas du tout au même stade là-dessus. Il y en avait un qui était beaucoup plus à l'aise, alors que l'autre n'était pas du tout à l'aise sur cette situation. Et donc, comment entraîner le sportif à l'aider dans ces situations ?
Et toi, ton plus grand rêve avec Agon, qu'est-ce que ce serait ?
Bah, c'est de l'emmener à Paris 2024.
Bon bah très bien sur cette question que l'on va conclure. Je te remercie Maëvendos de m'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait ?
C'est un projet formidable, mais que ça se fait pas tout seul, et que voilà, une équipe, mais c'est une grande équipe et une grande communauté pour y arriver.
Si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent le faire ?
Alors elles peuvent le faire sur le site web et puis après sur les réseaux sociaux.
Bon bah je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Très bien, merci beaucoup, à bientôt.
Merci à toi Kylian, merci pour ta gentillesse.
Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Maëvendos. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je tiens à remercier une nouvelle fois Maëvendos de m'avoir laissé l'opportunité de tester leur entraînement cognitif. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, @sport.kylian.tanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.